Je viens de Vendée où il y a le Vendée Globe, tout le monde le sait. Et habituellement, ils appellent ça l'Everest de la mer. Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps un invité qui donc recourt pour la deuxième fois, qui a fini dernier la fois précédente, et il dit c'est pas vrai, c'est pas l'Everest de la mer, c'est bien pire, parce que l'Everest, il y a 4 ou 5 000 personnes qui y sont montées, et les gens du Vendée Globe qui l'ont fini, il doit y avoir une petite centaine. Alors, j'ai fait un peu d'alpinisme, mais je n'ai jamais fait d'Himalaya, bien sûr. Je n'ai jamais fait de voile, mais je crois qu'il y a un peu de vrai, quoi. Bon, alors, ceci dit, j'ai été plusieurs fois, j'ai essayé de faire des choses au Vendée Globe. J'avais l'impression, alors cette année, c'est pire que tout, parce qu'il y a les règles du Covid en particulier, pour faire une interview. Alors là, on l'a fait par téléphone, mais une interview en direct, il faut un gars avec une perche. Si vous faites des séquences de 10 minutes que vous montez après, c'est pas de problème. Mais imaginez quand j'interview Pascal et qu'il y a un gars avec une perche, il faut qu'il ait le temps de faire les pailles bien. Alors ça a l'air de rien, mais ça prend au moins une seconde, et une seconde en radio, c'est presque l'éternité. Donc, j'avais l'habitude de dire, le Vendée Globe a passé la chasse à cours, on croise les caméras de coin du monde, mais nous, on est des braconniers, donc il faut qu'on se débrouille avec. Donc, peut-être que là aussi, c'est un peu pareil. Vous avez entendu les gens qui pratiquaient la chasse à cours sportive, et je vais faire du braconnage. Alors, avant de parler directement de l'histoire, je suis là parce que je fais une émission de radio depuis, ça doit faire 15 ans plus. En gros, on fait 40 interviews par an et je suis rendu à 718 invités. Donc voilà. Et normalement, il y a un invité par émission. Donc c'est pour ça sans doute que tu veux me faire parler. Je vais faire un peu, vous savez, comme, je sais pas, en quatrième, je me souviens, on avait vu la pièce de Racine qui a fait une farce qui s'appelle Les Plaideurs. Alors c'est une histoire d'un chien qui a bouffé les chapons du voisin et donc il y a. On va voir le juge et l'avocat, il y a un avocat, et l'avocat commence sa plaidoirie en évoquant la création. Et au bout d'un moment, le juge est indisposé et dit « Comment viendra-t-il au déluge ?» Alors, je ne vais pas parler ni de création ni de déluge, mais je vais prendre un peu avant le sujet. Quand j'ai fait ma formation, donc j'étais prêtre depuis 4-5 ans, et l'évêque de l'époque a dit « Bon, on a encore des jeunes prêtres, il faut les former et il fallait quelqu'un autour de la communication. À l'époque, on parlait de communication sociale. Donc, j'ai été l'heureux élu. J'ai quand même eu la chance de dire oui ou non. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi on me répondait ça. J'ai réalisé après que parfois, les nominations peuvent être intelligentes et je m'y suis retrouvé. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, alors, très rapidement, j'ai fait donc un trimestre à Lyon avec Pierre Babin, ça évoque peut-être des choses à laquelle... Il avait lancé un centre, surtout pour les chrétiens du tiers-monde. On s'est retrouvés, on était une vingtaine, il devait y avoir 15 nationalités. Après, Babin ne pouvait pas décerner de diplôme, mais il était oblat, et les oblats, ils sont nombreux, et ils ont des universités au Canada. Et donc, je fais partie d'une première fournée de quelques volontaires qui ont fait un semestre. En fait, le semestre a duré 7 mois à Ottawa, à l'université Saint-Paul, qui était jouxtée avec l'université d'Ottawa tout court. Et je suis fier d'avoir été à l'université d'Ottawa. C'est la première université bilingue du Canada. Et si vous ne savez pas ce qu'est le bilinguisme, allez faire un tour là-bas, vous verrez. C'est passionnant et quelquefois dramatique. Et puis pour finir, j'ai fait un an à la Fox, qui est l'ancêtre de Chrétien Média qui n'existe plus, sous les ordres de Michel Dubos. J'ai passé une année difficile, je n'étais absolument pas parisien, ni de naissance, ni dans mes fibres profondes. Par contre, c'était un excellent pédagogue, c'est certainement celui qui, dans le clergé français, a mieux compris les médias. Et donc, il m'avait dit, tu te formeras en formant les autres. Bon. Alors, quand j'ai commencé, j'étais à peine arrivé à Lyon. Un jour, on me dit, demain matin, vous aurez 3 minutes pour faire une communication sur la communication. Vous débrouillez. Je pense que là, il n'y avait pas plus de précision. Alors, moi, je me suis dit, il faut que je prenne une image. Et donc, j'ai raconté une petite histoire. L'histoire que j'ai racontée, c'est un souvenir d'enfance. Le vicaire de la paroisse veut organiser une espèce de camp
à l'île de Ré pour les enfants que nous étions. Et puis, et pendant 2 ou 3 jours, il nous a emmenés faire du camping. Alors, si certains connaissent l'île de Ré, il y a une partie très rétrécie et là, il y a une digue pour éviter que les tempêtes ne coupent l'île en deux, quoi. Et on était au pied de la digue, il y a eu une tempête, je m'en souviens très bien. Et j'avais jamais vu de tempête, surtout devant, près d'une digue. On voyait la vague qui arrivait et montait sur la digue. Et quand elle revenait, il y en a une autre qui montait et se rencontrait. Alors ça marchait pas à tous les coups, mais très très régulièrement, il y avait le moment favorable où deux vagues arrivaient ensemble et ça créait une troisième vague qui était superbe. Et pour moi, donc j'ai raconté cette histoire en disant que pour moi, la communication, c'est un peu ça. C'est un émetteur, un récepteur, à tour de rôle, émetteur et récepteur, qui disent des choses et ça crée quelque chose de nouveau. Alors bon, j'ai eu une bonne note, ce qui est toujours important dans ces cas-là. Mais quand on m'a demandé après de lancer une radio diocésaine, donc ça a démarré un peu avant que RCF n'existe comme tel. C'est-à-dire qu'on s'est lancé, enfin, on avait le service RCF, mais on avait tous des noms différents. Et puis, je crois que dans l'année qui a suivi, toutes les radios qui étaient dépendantes de RCF ont repris le même sigle. À l'époque, RCF n'existait pas, c'était comment à Lyon, Radio Fourvière, je crois. Hein? Voilà. Et quand j'ai lancé la radio, ben, je me suis rappelé l'image. Et donc, pour moi, je me disais, une radio, c'est chrétienne, c'est un lieu où il y a la vie des gens qui vient, les paroles, donc, y compris sportives. Et puis, ben, c'est aussi un lieu où on peut dire la parole de Jésus-Christ, la parole de l'Église. Et c'est ces deux choses ensemble qui créent la troisième vague. Voilà. Donc, dans cette ligne-là, j'avais fait en sorte qu'il y ait une émission sportive. C'était peut-être un peu ambitieux, enfin bon, un peu compliqué, je ne sais pas. Donc, moi, quand j'ai quitté la radio, très vite, l'émission a disparu. Il y avait des tas de problèmes. Je crois que j'avais dans cette équipe que des gens qui étaient toujours inquiets. Alors, ce n'est pas l'idéal pour... Bon. Donc, la radio, l'émission a disparu. Et puis, donc, il y a un directeur qui m'a remplacé. Et 4-5 ans après, donc il arrivait à la retraite, il a fait autre chose. Il y a eu un nouveau directeur qui me dit, c'est ce que j'ai raconté l'autre jour, qu'est-ce que vous feriez? J'aimerais bien que vous fassiez une émission. Donc je lui ai dit, une émission sportive. Et voilà. Alors cette émission sportive, pour la lancer, je m'en sers encore de la formule pour la lancer les premiers mois. Quand on ouvrait l'antenne avec, c'était un sportif se raconte et partage sa passion et ses émotions. Voilà, donc c'était un peu le projet. Deux ou trois anecdotes qui me permettront de dire des choses sur mes convictions. Dans les premières années, peut-être pas la première année, j'ai invité des gens qui s'appelaient Noès Mohen. Alors, le père de famille avait été sélectionné olympique en planche à voile. La mère était aussi d'assez haut niveau. Je crois qu'ils ont eu 5 enfants et 3 des enfants étaient des. On glanait en jeune, hein. Pas forcément après, mais en jeune, ils ont tous glané des titres européens, mondiaux. Ceux qui n'étaient pas champions du monde étaient vice-champions du monde. Alors, je me souviens avoir invité d'abord l'aîné. Bon, je ne sais pas quel âge il avait, vers 18 ans par là. Et il y avait une petite sœur qui devait avoir 14-15 ans. Et je me suis dit, tiens, ben, on va pas inviter la petite sœur, elle ne dira pas grand-chose, mais ça peut être une façon quand même de la prendre en compte, quoi. Donc j'ai fait l'émission, effectivement, le grand tenait la route, il n'y avait pas de problème. Et aucun des deux, à part la sœur, n'a continué très longtemps la. Mais ils avaient tous une formation scolaire et ils s'en sont tous tirés. Donc la petite n'a pas dit grand-chose. Et puis, alors, depuis, elle a mené des études assez brillantes et puis elle est toujours concurrente. Il se peut que ce soit elle qui représente la France au JO. Elle est une des meilleures mondiales, pardon. Mais pour être au JO, il ne faut pas être dans les meilleures mondiales, il faut être la meilleure française, quoi. La situation. Alors, je crois que la planche à voile va avoir des foils, vous savez, comme les bateaux, là. Ça vous dit rien, les foils? C'est l'espèce d'aile qu'il y a sur le bord des bateaux qui fait qu'ils arrivent à décoller de l'eau, quoi. Et alors, au niveau du Vendée Globe, il y en avait déjà il y a 4 ans. Et la planche à voile olympique sera équipée comme ça. Et semble-t-il, ça lui a profité. C'est très bien adapté, plus que ses concurrents. Mais que se passera-t-il, je ne sais pas. Donc, j'ai fait l'interview, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir la mère au téléphone quelques temps après, pour une raison que j'ai oubliée, et qui me dit, mais vous savez, ma fille, depuis, elle vous écoute, et puis elle prend des notes, étudie ceci, et puis cela. Mais surtout, elle m'a dit, vous avez posé des questions qu'on ne leur pose jamais. On leur pose toujours des questions techniques. Et vous, alors je ne dis pas que c'est les mots exacts, hein, mais vous leur posez des questions qui leur ont permis de dire ce que leur sport, leur pratique du sport leur faisait. Et je me suis dit, bon, donc cette émission n'est quand même pas complètement inutile. Et je crois qu'effectivement, c'est certainement une chose qui peut le définir le mieux. Alors après se pose la question du témoignage, puisque c'était un peu ça la question. Pour moi, j'invite des gens parce qu'ils pratiquent un sport. Donc, je ne vais pas automatiquement leur poser des questions sur leur conviction religieuse, parce qu'ils vont se dire, bon, ça y est, on s'est fait avoir, on nous dit, viens parler de basket, et puis derrière, on nous parle de Jésus. Bon. Or, c'est difficile justement de savoir quelles sont les convictions des gens qui sont là. Je prends un petit exemple qui est un peu marginal, mais ça me permettra de dire aussi quelque chose d'autre. Il y a à peu près 3 semaines, les pompes funèbres, donc je suis en paroisse, téléphone, une sépulture de Madame Toffa, T2OFA. Très spontanément, je me suis dit, ça c'est quelqu'un de Polynésie. Je suis tout à côté de Fontaine-le-Comte, et Fontaine-le-Comte a eu une caserne qui existe toujours, mais qui, jusqu'à la réforme du service militaire, accueillait plein de gens hors métropole, des Réunionnais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Polynésiens, et beaucoup, après le service militaire, avaient trouvé femme et restaient dans la région. Donc, quand j'ai entendu ce nom-là, je n'ai pas été très surpris, mais je me suis dit, mais j'ai eu un gars qui est venu me parler des courses en pirogue polynésienne, qui a des compétitions en France, lui ça donne un nom de temps en temps. Alors j'ai cherché, l'informatique a quand même du bon, là, très vite je trouve Toffa, effectivement, et c'était bien le monsieur que j'avais en émission qui venait de perdre sa femme. Donc j'ai fait la sépulture, ça s'est passé de façon, on a suivi le rite classique, sauf qu'il y avait des musiciens du pays qui étaient venus, et surtout à la fin, il y a eu une danse, des femmes de la famille ou des amis qui ont dansé pas du cercueil à l'église. C'était vraiment très très beau. Voilà un exemple type. Si aujourd'hui j'avais interviewé, je penserais à ça, mais voilà bien, j'ignorais, bon, je ne pouvais pas prévoir la sépulture et la façon dont ce serait. J'aurais dû savoir que c'est des gens très religieux, mais comment aborder la question? Alors, si l'émission était à faire aujourd'hui, j'aurais un autre problème. C'est que quand je vois, alors j'oublie ton prénom, quand je te vois parler, c'est admirable parce qu'il y a des gestes, mais à la radio, je crois que j'y renoncerais parce qu'on aurait un tiers du message qui passerait, quoi. Hein. Et là, comment rendre compte à la radio de ça? Bon, c'est aussi, quand on fait de la radio, on est payé, moi je ne suis pas payé, mais quand même, c'est notre métier, à partir de ce que les gens disent, de dire comment. On va faire passer des messages dans les conditions que sont celles de la radio. Mais le problème, c'est que souvent, on découvre des choses de la vie des gens, par exemple au niveau religieux, vu toutes les raisons dont tu as parlé, Joël, qu'on ne peut pas connaître, qui sont tues, quoi. Hein. Donc il y a plein de gens que j'ai ratés, qui avaient des choses à dire, mais il fallait le savoir avant qu'ils avaient quelque chose à dire. Hein. Et puis en plus, rappelez-vous, j'ai dit que je suis de l'ordre du braconnier, pas de la chasse à cour, hein, donc les outils sont voilà, faciles à manier. Alors dans cet ordre-là, oui, vous allez me dire, parler de l'émission, pourquoi parler de la danse dans le cercueil? Je me rends compte, aussi bien dans l'émission que dans les textes que j'ai écrits et que j'essaie de publier, que je suis là, moi je suis tout à fait en consonance avec tout ce qui a été dit sur le corporel. Alors ça, des histoires, je pourrais en raconter plein. Hein. Et quand je sens qu'il y a des choses qui sont d'ordre corporel et pas forcément strictement sportif, j'essaie de le mettre en avance. Hein. Le dernier texte que j'ai fait, je commence en disant, pour un peu, j'aurais oublié, j'avais vu un truc concernant des clowns à la télé. Alors c'était étonnant parce que dans le numéro du clown, c'est des clowns allemands, j'ai oublié le nom, j'ai essayé de retrouver sur internet, j'ai pas retrouvé. Donc il y avait d'abord un numéro de porte qui claque, archi classique, mais alors de haut vol, hein, les portes ne claquaient pas n'importe comment. Et ensuite, même clown, c'était un numéro un peu onirique, il y avait un clown qui faisait le sculpteur et l'autre qui se déshabillait au fur et à mesure. Et c'était et très étonnant parce que ça disait la technicité de ces gens-là, et puis que le métier de clown, c'est pas, faut pas confondre être rigolo et être rigolo. Donc je me suis dit, faut que je mette quelque chose sur ça parce que ça a un rapport avec la pratique sportive, même si c'est pas le métier de clown, pas directement du sport. Et on est obligé de regarder derrière les images, quoi. Quand on voit le gars qui fait le pic, le clown. Bah, quand on est clown, c'est un vrai métier, une vraie performance. Quoi. Bon, tout ça pour dire la place du corporel. Alors, maintenant la question, donc, c'est ben, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois des gens? Est-ce qu'ils peuvent donner leur témoignage ou pas? Alors, j'ai vécu une petite expérience. On a eu en Vendée un championnat de France de cross-country. Alors, ça fait déjà quelques années, hein, ça peut faire 10 ans, c'est possible. Donc, je m'étais dit, tiens, il faudrait faire quelque chose de particulier. Alors, cette année-là, il y avait 3 juniors de Vendéens qui étaient sélectionnés pour le championnat de France. Alors, c'était des bons, c'était pas des internationaux, ils ne pouvaient pas prétendre au podium, mais c'était des bons régionaux. Donc, je me suis dit, alors, aujourd'hui, j'ai moins peur de prendre des jeunes, j'arrive toujours à m'en tirer. Hein. Quand ça va trop mal, je fais la liste des commissions, c'est-à-dire je prends plein de questions. Et puis, ben, je les bombarde de questions. Normalement, en temps normal, c'est pas ça, j'essaie de construire. Mais quand on se trouve devant quelqu'un qui répond par oui ou par non à toutes les questions, c'est la solution d'éviter le drame, c'est bon. Mais c'est arrivé très peu de fois. Peut-être 2 ou 3 fois, j'en suis à 700 invités. Et donc, ce jour-là, je me dis, bon, si j'y prends tous les 3, ça devrait faire quelque chose de bien. Et parmi les 3, il y en avait un qui accompagnait un groupe de confirmation. Je le savais, j'en avais parlé avec lui. Et donc, avant de commencer l'interview, alors on était en différé, mais en différé dans les conditions du direct. On démarre. Alors, s'il y a un problème dans les 30 premières secondes, on arrête et on recommence bien. Mais après, s'il y a un problème à 5 minutes, tant pis, c'est comme si on était en direct. On peut toujours, s'il y a eu un drame, faire un, enfin pas de montage, mais enlever la... le raté, le... bon. Donc, je leur dis, je poserai une question à Thierry, c'est pas Thierry, mais je me souviens plus du prénom, parce que, donc, il a quelque chose à dire, il s'occupe de confirmer. Bon. Donc, on fait l'émission, je pose la question à Thierry, il explique un peu qu'est-ce que ça lui fait d'accompagner des jeunes confirmants, bon, les liens avec le sport, bon. Et je dis aux autres, avez-vous quelque chose à ajouter? C'était vraiment pour passer vite fait ailleurs. Et il y en a un qui me dit, moi c'est pareil. Je lui fais un large sourire, je réponds je sais pas quoi, et on passe à autre chose. Et moi, dans ma tête, je me dis, mon petit Anthony, tu n'apprendras pas au vieux sage à faire la grimace. Alors, et en paroisse, souvent, quand on s'occupe de parents pour le caté, on fait une réunion, puis pour un petit peu les mettre dans le coup, on fait, vous savez, 6 minutes à 6. Alors, quand on fait le compte-rendu général, il va y avoir 2 groupes qui répondent, et puis le 3e groupe dit, nous, c'est pareil que les autres. Et le 4e, nous, c'est pareil. Donc, je sais très bien que nous, c'est pareil, ça veut dire, on n'a rien à dire, on ne veut rien dire. Donc, je fais un grand sourire à Anthony qui venait de dire, moi, c'est pareil. Et puis, peut-être 2 ans après, c'est Anthony qui a le plus sorti du lot des 3. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, on a fait l'émission, mais ce n'était pas une vraie émission, puisque vous partagez le temps à 3, veux-tu revenir? Donc, ouais, d'accord, donc on fait l'émission, tout. À la fin de l'émission, il me dit, vous faites ça tous les jours? Ah, je dis non, pas tous les jours, heureusement, parce que sinon, je le ferais pas, quoi. Hein. Mais il me dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, je lui dis, écoute, moi, je viens de faire mon travail, 1 demi-heure, on est en train de prendre un café, si tu veux savoir ce que je fais, tu cherches, mais sur un... L'émission s'était très bien passée, je pouvais permettre un peu de plaisanter, vous voyez. Alors il cherche, et puis tout d'un coup il me dit, vous vous habillez dimanche? Ben, je dis, bien sûr, les autres jours aussi. Bon, là il avait compris, c'était clair. Et il me dit, ben, moi je vais à la messe tous les dimanches. Et là, je me suis dit, à Réunion, t'es un con. T'avais pas vu l'avion arriver, quoi. On n'a pas beaucoup développé. Quelques années après, il a eu envie de se marier, donc il m'appelle. Donc j'ai préparé le mariage, j'ai fait le mariage. Et là, au niveau de la préparation, ben, j'ai constaté, il en était à dire des choses du genre, ben, c'est pas la peine d'aller à la messe dimanche, on peut bien prier chez soi. Et donc là, je me sentais un peu coupable, ou du moins ce que ça m'inspire. Je me dis, quand il était ado, il a trouvé personne pour le rejoindre dans ce qui était peut-être pas la seule motivation de sa vie. Hein. Bon, c'est un garçon qui suivait des études, tout, mais il a trouvé jamais personne pour essayer de faire le lien entre sa pratique sportive qui comptait beaucoup pour lui, quoi. Hein. Et puis la foi chrétienne, quoi. Alors face à ça, moi je suis un peu démuni. Je suis pas du tout organisateur. Je vous laisserai une feuille peut-être tout à l'heure. On a fait quand même à l'époque, je me souviens plus s'il était, j'ai regardé la feuille rapidement. À une certaine époque, une année, j'ai proposé à des gens soit qu'ils avaient dit des choses sur la foi, soit que j'avais senti quand même qu'il y avait des accroches. On a dû faire deux rencontres que j'ai résumées dans une feuille. Alors normalement, si le livre dont je vous parle toujours paraît, ça paraîtra dans le livre, c'est pas une feuille typique. J'ai sur une page, j'ai regroupé voilà les quelques bribes qui étaient ressorties des réunions. C'est mieux que rien, mais moi ma question c'est de dire voilà quand j'entends Joël et compagnie, qu'est-ce qu'il faudrait mettre au point pour justement que ces jeunes aujourd'hui soient rejoints dans leur foi et sur les points qui sont au cœur de leur vie, quoi. Hein. C'est clair ou pas? Ouais. Bon. Alors,
les aumôneries.
Hein?
Les aumôneries. C'est ça?
Ah ben, j'ai aucune idée. Non, mais quand j'entends Joël, je me dis, oui, il y aura des tas de choses à faire. Bon, j'ai aussi 74 ans. je le fais avec humour, mais c'est quand même un peu particulier. Il y a 5 ans, j'étais dans une paroisse merveilleuse, pas pauvre paroisse, mais on faisait des choses qu'on ne fait pas dans les plus riches. Bon. Donc, au bout de la 5e année, on me dit, il faut que tu ailles à tel endroit. Bon. Je dis, ben, pourquoi il faut que je m'en aille? J'ai encore une année à faire. Je pense qu'au niveau du droit canon, j'aurais pu me défendre d'ailleurs. Il n'y a pas de spécialiste du droit canon là. Bon, ben j'ai dit oui, donc je suis atterri dans une paroisse où il y avait 12 clochers, ce qui n'est pas énorme, parce que, oui, 12 clochers, 10 000 habitants, c'est pas énorme, enfin en Vendée c'est déjà pas mal. Le problème c'est qu'il y avait presque un curé dans chaque clocher, un curé c'est-à-dire un laïc qui prenait le pouvoir. Je vous avertis, je n'invente rien. Hein. Bon, et puis, donc je suis parti, j'ai accepté. Et il y a 2 ans, on me dit, il y a ton collègue, là, Bernard, qui arrive à la retraite, il veut bien rester sur place, parce que tu veux devenir curé d'autre paroisse. Donc 12 plus 7, ça fait 19. Et puis, donc, on a commencé à vivre sur d'autres paroisses. C'est arrivé le Covid. On a commencé à faire des choses très sympas. Et puis, le Covid est arrivé. Et cette année, on me dit, tu t'en vas dans la paroisse à côté, parce qu'elle ne va pas vivre très longtemps, parce qu'on est en restructuration à nouveau. Donc, tu ne seras pas le curé, et puis tu resteras l'an prochain, même si tu es à la retraite, pour assurer la transition. Bon. Je ne suis pas sûr que si un management professionnel était là, il aurait complètement signé. Enfin bon, voilà. Donc, quand on est curé de paroisse, on a des situations que vous connaissez aussi bien que moi, donc ça ne permet pas non plus d'inventer des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, oui, alors les témoins, c'est ça le problème, les témoins, il y a une chose qui est évidente, c'est que plus on monte en niveau sportif, plus les gens savent parler de leur sport. Alors, ça c'est pas qu'un détail, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent des choses mais qui sont incapables d'en parler. Donc, et nous, on est un département quand même où il y a beaucoup de sports, mais il y a très peu de sports de haut niveau. On a fait allusion là, au fil de la Roche-sur-Yon. Dans les grands sports, on va dire foot, basket, qu'est-ce qu'il y a, handball, volley, voilà. Dans tous ces. Bon, je parle, même en athlétisme, je crois que c'est pareil, il n'y a pratiquement pas de club du top niveau. La seule équipe en première division nationale, si on peut dire ainsi, c'est les Filles de la Roche. Alors après, par exemple, on a une équipe de rink hockey qui a eu plein de titres de championne de France, mais le rink hockey, vous voyez, c'est un sport très, très, très beau, mais ce n'est pas quand même au niveau de l'impact, c'est le même niveau, quoi. Alors, de temps en temps, j'ai interviewé quand même Pascal, jadis, ici. Alors, cette année, là, tu sais, avec le Covid, le changement de. Je suis venu là, un peu les doigts de pied en éventail, en me disant, j'emporte pas de magnétophone. Ce sera déjà bien de participer comme ça. Donc, j'ai eu Pascal, j'ai eu Guillaume Warmus. Alors, il était là. Alors, Guillaume, oui, c'est évident. Je ne vais pas trop vous parler de lui, je vais parler d'un autre. Guillaume, c'est évident que c'est l'accident de ses genoux qui a fait sa conversion. Il y a polonais, communion, confirmation, mariage à l'église et tout. Et puis le foot arrive, on oublie tout. Et puis un beau jour, il se pète un genou tout seul. Il n'avait même pas la chance de pouvoir en vouloir à quelqu'un d'autre. Il avait fait ça tout seul en prenant une balle, quoi. Et il a une phrase dont je me souviens. J'ai pris conscience de ma finitude de footballeur, mais aussi de ma finitude d'homme tout court, ce qui a été exprimé ici avec d'autres mots, quoi, hein. Et donc, je passe parce que. Mais c'est une très belle expérience, quoi. En plus, c'est un garçon qui a le sens de l'humour. J'ai pris un temps un peu rigolo. Donc, il a eu un article dans la revue Jésus, hein. Oui, Guillaume Warmus. Ouais. Alors, j'ai fait quelque chose de plus. Parce que son truc a un peu une histoire au début, c'est un peu une histoire de marche-chant de vache, hein. Bon, je te prie, tu me guéris. Deuxième fois, deuxième blessure, peut-être que je monte un peu les enchères. Si tu me guéris, je me confesse. Mais à côté de ça, il y a un véritable cheminement. Donc, moi, j'avais entendu ici, j'avais lu le texte. Donc, après, je l'ai rappelé, parce qu'il disait un moment, j'ai découvert la relation à Dieu. Et donc, je lui ai dit, mais c'est à Dieu ou à Jésus? Ah non, non, c'est à Jésus. Bon, c'est un petit détail, mais ça dit plus de choses quand même, hein. C'est-à-dire qu'il parlait vraiment de quelque chose de très précis, hein. Les découvertes de Jésus à travers les textes et tout, quoi. Et donc, je lui ai renvoyé le texte final, et en lui disant, ben, tu corriges s'il y a des trucs. Enfin, je gardais ma liberté de journaliste, entre guillemets, mais c'est intéressant quand même de voir ce que les gens, est-ce qu'on les a trahis ou pas, quoi. Et il m'a dit, non, non, ça me plaît bien, il y avait juste un détail qui m'a corrigé. Bon. Alors, j'ai envie de vous parler d'un autre truc, ça va, je peux raconter des histoires? Bon. Alors, je fais encore un peu de montagne, j'ai mon passé derrière moi, j'ai connu le meilleur et le pire, enfin non pas le pire, puisque combien de fois, il y en a qui ont fait de la montagne ici? Non? Ouais, alpinisme ou, oui?
Voilà un petit peu.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, ce coup-là, on est bon pour attendre l'hélicoptère?
Mais j'ai dû passer une nuit dans un refuge et c'était pas prévu.
Ah oui. Ah oui, mais vous étiez quand même dans un refuge. Bah, souvent, je me suis dit, ce coup-là, on va être pour attendre l'hélico. Ça s'est jamais produit. Bon. Et, alors, dans la revue du Club Alpin, un jour, je trouve l'histoire de Thierry Renaud. Donc, c'est un gars dans le milieu un peu connu. Il a été un des grands. Parce que là, il commence à avoir de l'âge aussi, il doit avoir approché de 60 ans. Il était un des grands glaciéristes, les gars givrés, c'est le cas de dire, qui font de l'escalade des cascades de glace. Cascades de glace, je ne sais pas, essayer de taper avec un marteau, par exemple, sur de la glace, vous savez que ça casse très facilement. Hein, bon. Et puis, il a été un de ceux, alors ça, c'est un copain guide qui m'a expliqué, qui est arrivé avec un bagage sportif, c'est-à-dire que les guides. Autrefois, avec moins de notion du sport, aujourd'hui, ben, un sportif, un alpiniste, c'est quelqu'un qui a fait, a pris à son compte tout le bénéfice des études sportives, quoi, si on peut dire. Hein. Alors son histoire à lui, donc pareil, Cato, et puis les parents se séparent. Alors aujourd'hui, il n'est pas en très très bon état. Moi, j'ai eu au téléphone pour lui demander la permission d'écrire quelque chose sur lui. J'espère que ça va mieux, mais à l'époque, il était en déprime, quoi, pour des raisons familiales et personnelles. Bon. Donc, tout allait bien, les parents se séparent. Alors là, c'est la cata, à l'école, n'en parlons plus. Et puis, on le met pendant l'été chez un tonton à Chamonix. Le tonton travaillait, le gosse, il n'avait rien à faire. Et ils habitaient près des Bossons. Alors, les Bossons, c'est le glacier qui descend très bas à Chamonix, qui descend au niveau des premières maisons, enfin un peu plus haut, surtout que maintenant ils reculent en plus. Et donc c'est là-bas que tous les guides vont tester leurs clients, voir s'ils font quelque chose. C'est une école de glace en plein air. Bon. Donc, il aurait plus facile d'avoir une école de glace en plein air que bien sûr sous chapiteau. Et donc il s'aperçoit, ça commence à l'intéresser. Alors il fouille dans les affaires du tonton, il trouve un piolet et des crampons. Et donc, il commence à apprendre tout seul. Et puis, peu à peu, bon, je ne sais plus, étant collégien, il a dû contacter un club alpin, je pense, puisqu'un jour, un de ses professeurs met sur son cahier scolaire « Thierry prend, pour être positif, Thierry prend quelquefois, a quelquefois le courage de sacrifier l'escalade à l'école, quelquefois. » Bon. Alors finalement, il est tiré de l'école, il apprend le métier de menuisier, il devient guide, donc un guide connu, on a connu, il fait des expéditions. Pour faire des expéditions, il faut être médiatisé. Bon, tout ça roule. Alors il y a quand même des petites fractures qui apparaissent. Un jour, il s'en va avec un copain dans le désert du Sahara, vers le Bogart, je crois, un truc comme ça. Ils s'en vont pour grimper, et en fait, ils passent leur journée à se balader, à admirer. Ils grimpent un peu, mais un choc, un désir manifestement quelque chose d'autre. Hein. Et là-dessus, donc comme il est connu, un jour, deux jeunes guides lui disent on veut faire telle escalade. Alors c'est une escalade connue, ça doit être la cascade du Lys. Je peux dire des bêtises, vous n'êtes pas mieux avancé que moi. Et donc les guides lui disent, toi tu l'as fait, est-ce que tu nous prendrais avec toi? D'accord, ils s'en vont. Alors une cascade, je comprends bien, d'un hiver à l'autre, ça change. En rocher, on peut avoir des morceaux de rocher qui tombent et tomber de marre. Un jour, un passage qui était facile et qui est devenu difficile, mais en cascade de glace, tous les ans, c'est lourd, quoi. Et il y a un moment où il est bloqué. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer, et s'il tombe, il est mort. Et ça, il a pleine conscience du truc. Et à ce moment-là, il se rappelle qu'il a été au caté, tout ça. Et il fait une prière, alors je ne sais plus quand il le dit, il dit, je ne sais même pas quelle prière que j'ai fait, c'était un cri, quoi. Et, alors, vous allez voir l'histoire, je ne suis pas sûr que quand il la racontait, il était conscient de tout, mais on a le droit quand même d'entendre ce que dit l'histoire et ce qu'elle peut nous dire à nous personnellement. Et il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé une espèce de respiration, je ne sais pas d'où elle vient. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait du latin ici? Ben oui. L'esprit, alors c'est un mot c'est un peu un mot pute aujourd'hui, hein, qui se prostitue, qui dit plein de choses différentes de l'origine. À l'origine, esprit, c'est rentrer dans la langue religieuse, aller voir Jean-Pierre Robert, dans la langue française, par son sens religieux. Donc c'est le spiritus latin. J'ai fait le truc avec des confirmants. Un jour, une mère de famille qui s'occupait des confirmants me dit, vous arrivez, ils vont être confirmés dans 8 jours, ça serait bien que vous leur parliez. Il faut leur dire quoi? Ah, je vois. J'ai une idée, alors je leur dis, vous allez être confirmés, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Alors, il y a des mots comme ça qui sont des images. Donc, le cœur, parfois on parle du cœur, mais parfois le cœur, comme image, ça veut dire les sentiments. Alors, vous mettez où le cœur dans votre corps? Alors, ils vont tous montrer par là. Hein. Bien. Bon, mais maintenant, on va faire pareil. Le mot esprit, bon, on parle des gens d'esprit, un bon esprit, etc. Et puis, on parle de l'esprit, ça. Alors, l'esprit, vous le mettez où? Ils ont tous fait ici. Je dis, je suis désolé, les enfants. L'esprit, c'est le souffle. Spiritus, respiration. En grec, pneuma, c'est le pneumologue. Hein, c'est, si vous allez voir le pneumologue, c'est que c'est les poumons qui ne vont pas. Donc, quand on vous parle de l'Esprit Saint, on n'est pas en train de vous parler de ce que vous avez dans la tête. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu. Moi, j'aime bien dire au baptême, si Dieu il souffre sur la petite statuette qu'il a fait là, dans le livre de la Genèse, hein, qu'il a modelé de ses mains, c'est pas pour enlever la poussière, mais c'est qu'il communique son souffle et que l'homme est vivant parce qu'il est vivant du souffle de Dieu. Quoi. Bon. Alors après, ça a été plus dur parce que je leur dis, mais le souffle, ça fait plein de choses. Alors, vous allez, les enfants, arrêter de respirer, puis après, quand je vous dis arrêter, vous bloquez votre respiration, et quand je ferai un deuxième si, vous ferez O. Oh. Alors, bon, on a fait l'exercice, évidemment, ils ont tous trigé sans le savoir, puisque c'est impossible de parler si on n'a pas de souffle, quoi. Donc, alors, ça a été plus facile, plus difficile à expliquer, mais enfin, c'est une façon de faire remarquer que spiritus, c'est le souffle, c'est l'énergie. C'est la maîtrise de soi. En escalade, combien de fois on entend, vous savez, quand on est au bord de la rupture, les copains, ils respirent bien, détends-toi. En général, ça marche pas. Mais n'empêche que c'est quand même, la respiration est quand même, c'est la maîtrise de soi. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand même, quand on parle à des jeunes de l'esprit et qu'on leur dit l'esprit, c'est pas que les idées qu'on a dans la tête. Alors, dans les textes grecs ou latins originaux, ça c'est clair, il y a des phrases du genre, moi j'ai toujours de la peine avec les citations, mais on a des phrases où il est dit, ayez bien dans votre esprit l'esprit du Seigneur, un truc comme ça. Vous verrez, il y a mens pour l'esprit humain et spiritus pour l'esprit de Dieu. Donc, l'histoire de ce brave homme qui dit j'ai une respiration, je ne sais pas d'où il vient. Bon, il n'a pas dit que c'était l'Esprit Saint, mais vous voyez, ça, c'est quand même, quand on. Moi, connaissant le vocabulaire religieux, cette respiration, elle vient d'où? Bon. Alors pour lui, c'est clair, c'est Dieu qui l'a sauvé. Alors je dirai la suite après. Seulement, ça continue après, il grimpe, après tout se passe normalement, mais comme on est en hiver, le jour tombe facilement, et ils vont finir à la nuit. Bon. Et pour finir la course, puisqu'on parle de course en alpinisme, il faut rentrer dans la cascade. Alors je pense que toutes les cascades doivent être comme ça. L'eau qui arrive au bord de la cascade, elle ne tombe pas au ras. Je ne dis pas que ça arrive pas. Enfin, la plupart du temps, elle fait comme ça. Donc quand ça gèle, on a un trou entre la barrière de glace et le rocher. Et donc là, dans cette situation-là, ils étaient obligés de rentrer dans le trou pour ressortir. Il rentre dans le trou. Et il fait bon dans le trou. C'est le principe de l'igloo. C'est un peu comme dans le ventre maternel. Alors qu'on était au froid, tout d'un coup, on est au milieu de la glace, mais il fait doux et humide. C'est le ventre maternel. Et le problème, c'est que pour sortir, il a été obligé de forcer le passage. Donc, sans doute, quelques coups de piolet d'abord, et puis après, ben, on pousse, on tire, on fait comme on peut. Il y a des escaladeurs très fins qui sont complètement perdus quand ils arrivent en montagne dans des éboules de rochers. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu te débrouilles, ça doit te voir. Hein. Parce que quand vous êtes en escalade, dans une belle scène d'escalade, il n'y a point tous les principes de l'opposition, la ruse, tout ça. Bon. Donc, lui, il connaît son métier, il force le passage. Et quand il sort, il sait qu'il est sauvé, il crie. Et en plus, il arrive à la lumière, parce qu'il fait nuit, mais c'est un ciel étoilé. Si ça, ce n'est pas le sketch de la naissance, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et je crois que là, du coup, il a bien vu cette fin finale comme une naissance. Et compte tenu du reste de son évolution, c'est aussi un baptême. Alors, je ne dis pas qu'il a vécu tout ça exactement comme ça. Alors, la suite, puisqu'il y a eu une suite quand même qui n'est pas négligeable. Que faire après ça? Quand on était chrétien des premiers siècles, On était martyrs. Quand on n'a pas pu être martyr, il y a des gens qui ont inventé le monachisme, une façon de se donner, une façon très radicale à Dieu, puisqu'on ne peut pas lui donner sa vie au sens propre, hein, si on peut dire. Voilà. Et donc, il s'en va dans le monastère, je crois que c'est au Grand Saint-Bernard, et là, il va passer 5-6 mois épouvantables. Parfois, il ne mange pas, parce qu'il n'a pas faim, enfin, une grosse crise spirituelle. Quoi. Alors, la chance, c'est qu'il y avait un ou deux moines qui étaient d'anciens guides. Donc, ça crée une proximité. Et quand on lui demande qu'est-ce qui te reste de ce séjour en monastère, ça peut rejoindre ce que tu parlais tout à l'heure. Alors, le mot que tu as employé ne me revient pas, mais lui, il dit la bienveillance. Et au bout du compte, il se dit, ben, Dieu ne m'appelle pas à moine, il m'appelle à continuer mon métier, mais en faire ce qu'il n'aurait jamais dû arrêter d'être, un service des clients, et pas simplement courir après les cachets, après les exploits. Hein. Et alors, c'est une histoire sans fin, il dit, raconte des histoires de clients, il dit, ben, un jour, il y a une dame qui vient, elle était en basket, avec un cavoué, un short, peut-être bien, une dame d'un certain âge, et elle me dit, je viens vous voir parce que j'étais au bureau des guides, je veux faire le Mont Blanc avec un guide croyant, alors on m'a donné votre nom. Alors il lui dit, ben c'est bien, mais on ne peut pas aller au Mont Blanc en basket avec un short, il faut s'habiller, il faut s'équiper, puis il faut surtout se préparer. Vous allez randonner un peu? Ben non, je n'ai pas eu le temps. Bon. Alors il dit, mais vous reviendrez. Il y a pire, il y a des tas de trucs, puis il y a pire, puis aussi. Voilà, la dernière fois de ma vie, sans doute, chez Monteron, hein, Mont Blanc, on y est monté avec un copain, on savait qu'on ne ferait rien. Et ben, y a un jeune russe qui est allé avec ses copains. Parce que quand on vient de Russie, qu'on a fait toutes ses économies, et qu'on n'a plus qu'un jour, on y va, quoi qu'il arrive. Et il s'est détaché de la cordée pour pisser, il est mort. Voilà. Donc tout arrive. Hein. Bon, donc revenez dans un an, vous vous préparez. Alors la dame a tout fait. Et au sommet du Mont Blanc, eh ben, elle a chialé de joie. Et donc, pour lui, c'est un des grands souvenirs dans la foulée de la réorientation de sa vie. Et alors, il y a une fin à la fin. Quelques jours après avoir diffusé l'émission, j'étais chez le libraire Siloé, juste à côté. J'étais à la caisse. Je devais bavarder comme je le fais souvent. Et dans mon dos, j'entends quelqu'un qui me dit, vous êtes Claude Arignon. Alors, c'est toujours flatteur quand on fait de la radio que les gens vous reconnaissent à votre voix. Ben, je dis, ben oui, ben, pourquoi vous me dites ça? Parce que je suis la dame de l'histoire de Thierry Renaud. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, ça, c'est un témoignage assez extraordinaire. Hein. C'est à tout point de vue. C'est-à-dire que. Parce que c'est une histoire qui porte des significations qui n'étaient peut-être pas évidentes. Enfin, le cœur de l'histoire, c'est quand même voilà, d'appeler à Dieu. Enfin, c'est tout ce qu'on a dit sur les fragilités, sur l'échec. Hein, c'est dans l'échec qu'il a réorienté sa vie. Quoi. Bon, il faut peut-être que j'arrête.
Bah, pile dans les temps. Merci beaucoup.
Alors, si, une dernière.